Cette saga 6, Jacinthe Averell qui est en studio avec nous en remplacement de Denis qui est là du lundi au jeudi. Le chiffre à Jacinthe, c'est le vendredi. Y a-t-il un hasard, le soleil qui sort comme ça super fort, puis Jacinthe
pense
qui arrive en studio?
Je penserais pas.
Non, Jacinthe, t'es notre petit rayon de soleil.
Oh, vous êtes fin, merci.
Passez une belle semaine?
Oui, très belle semaine.
Il y a eu beaucoup d'action?
Oui.
Je t'ai vu passer dans un podcast, j'ai pas eu la chance de l'écouter au complet. C'est quoi ce gros podcast-là?
Libre Média, c'est un média indépendant.
Oui, avec Jérôme.
Qui vit sans subvention avec Jérôme Blanchet-Gravel et qui m'a reçu dans le cadre d'une grande entrevue ici, à la salle...
De Bourgneuf.
Oui, exactement.
Ah, cool.
Donc, vous allez reconnaître le décor. Une belle entrevue d'une heure dans laquelle je peux m'exprimer sans le filtre du temps. Parce que le temps, ça fait en sorte que ça nous limite dans nos explications. Puis des fois,
Ça doit faire une différence. Toi, tu travailles dans deux villes différentes. Tu travailles à Montréal et à Québec. Là. Tu sais, à Québec, on a le temps de s'asseoir, jaser.
Ouais.
Hier, j'étais avec Rémi Villemur du 99.5, le fils d'un de mes anciens collaborateurs, René Villemur, éthicien, philosophe. Ça faisait drôle parce que j'ai passé beaucoup de temps avec... René, le père, qui est arrivé comme député par la suite pour le Bloc québécois.
Ouais.
Mais puis là, de faire une entrevue d'une heure avec son fils, de voir tout le... De voir tout ce que le leg de son père.
Oui,
j'imagine qu'il y a une partie de sa mère aussi, mais le leg de son père. C'est genre, j'ai reconnu en Rémi son père, René.
T'es-tu senti vieux?
Oui, puis ça commence, là. Je sais pas si je vous l'ai raconté, mais j'ai joué au hockey, puis il y avait une gardienne de but remplaçante dans l'autre équipe. Puis, elle était quand même super bonne, tu sais. Et là, j'étais là, crème, elle est pas haute sur patte, mais elle en couvre pas mal dans le but, puis elle a des réflexes. Puis là, nous autres, on tirait. Puis après le match, j'ai vu ma première blonde. Puis elle dit, tu jouais contre ma fille.
Hé là là!
Quoi? Fait que là, bref, oui, je me sens vieux, mais en même temps, j'ai commencé, ça fait quoi, 2006 que j'ai commencé à faire de la radio? Ça va faire 20 ans, Max. Qui l'a cru?
Fait que là, t'interviews les fils des anciens.
Les enfants des anciens.
Ouais.
Tough, pareil, vieillir, se rendre compte qu'on est rendu... ceux qu'on regardait comme des mononcles et des matantes passer date un peu ses bords.
Ouais. Mais moi, je m'abuse un peu avec ça. Des fois, je fais plus mononcle que je suis en général. Mais bref, j'ai bien aimé. Puis le podcast sera disponible ce matin, si ce n'est pas déjà fait, là, sur l'application Boulevard ou encore sur blvd.fm, 1,60 minutes avec... Monsieur Villemur, Rémi Villemur du 99.5, qui est collaborateur aussi avec Jeff dans On en jase. Jacinthe, j'ai des questions.
Ouais.
Faut que je te fasse entendre quelque chose avant. À Montréal, Québec, on a des problèmes de nid de poule. À Montréal, c'est beaucoup plus catastrophique. Si on pense qu'on est mal servi à Québec par l'administration, on l'est peut-être, mais Montréal, Mme Plante a eu beaucoup de difficultés dans les services publics et c'est Soraya... Martinez Ferrada qui reprend le flambeau. Et elle a fait une entrevue avec Patrice Roy. Ils sont sur la rue, puis ils discutent. Et Patrice Roy lui dit quelque chose qui a accroché beaucoup moi puis Jeff. Là. Il y avait beaucoup de mépris. Il y avait comme un message qui passait au travers de ça. Je veux pas te vendre le punch. Je vais te faire écouter le début de l'entrevue. Puis je vais l'arrêter, puis après ça, je vais te poser la question que je veux te poser.
Madame la mairesse, est-ce que de notre vivant, du mien, là, je suis plus vieux, on va réussir à régler la question des nids de poule à Montréal.
Oui.
Là, vous faites un appel d'offres pour faire ça à l'appel.
Oui.
Voyons!
Je sais. C'est fou, hein? J'espère vraiment que dans le cadre de...
Vous n'avez pas peur que ça commence à vous coller à la peau?
Ben.
Elle, là, elle se rend compte que dans sa ville, ses cols bleus ne fournissent pas parce qu'ils n'ont pas assez de machinerie, là, puis elle va l'expliquer pourquoi. Mais elle se rend compte que ses cols bleus ne fournissent pas. Elle fait un appel d'offres, elle demande aux gens, on n'a pas le choix, là, faut travailler au pic puis appel, faut boucher les nids de trous, les nids de poules. Et Patrice Roy, il dit, mais là, boucher les nids de poules, faire des appels d'offres, vous n'avez pas peur que ça vous colle à la peau? Hey, c'est sa job de faire ça.
Ouais.
Moi, là, elle a gagné tout mon respect, Mme Ferrada, Martinez, Soraya. Mais moi, elle a gagné mon respect. Elle est là pour sa communauté. Puis peu importe de quoi elle va avoir de l'air, ce qui est important, c'est d'offrir un bon service à sa communauté. Mais Patrice Roy dit, vous n'avez pas peur pour votre carrière? Si lui dit ça, il y en a combien autour de lui dans les médias qui ont sifflé ça dans les oreilles à Valérie Plante quand elle était là? Ouais, mais là, tu veux peut-être mettre moins de budget sur les pistes cyclables? t'as pas peur pour ta carrière? T'as pas peur pour la suite des choses?
Ah bien, c'est une nouvelle perspective que tu me fais voir parce que moi, j'aurais écouté ça, ben, puis je passais tout droit, là. Je m'arrêtais pas à ça.
Ouais. Moi, j'ai eu de la misère avec tous les politiciens, là. Ça fait que je suis très, très, très attentif.
Mais c'est parce que ça n'a pas d'allure.
Mais qu'est-ce qui n'a pas d'allure?
Ben, une pelle. Voyons, Jacinthe-Ève, une pelle en 2026.
OK, non, mais... Okay,
elle va faire
mais,
sa job.
Donc, vous comprenez... Mais c'est ça. Ben, OK.
Ben oui.
Je m'entends... Je suis d'accord avec toi. On est rendu à des moyens des années 60. On demande à la population, finalement, combien de trous vous êtes capable de faire en avant de chez
c'est
vous.
Ça.
Ça bon, sonne de même, mais en même temps, c'est un appel d'offres.
Mais pourquoi tu me dis que, Patrice Roy, de poser la question, vous n'avez pas peur pour votre carrière... C'est ce bout-là là, que je comprends pas. Okay.
Je vais répéter parce que je me suis peut-être mal exprimé. Il y a des trous à boucher à Montréal.
Ouais.
Les cols bleus peuvent pas faire la job parce qu'ils n'ont pas la machinerie. Dans les dernières années, sous Valérie Plante, la machinerie a été laissée à l'abandon pour colmater les nids de poules. Elle a dit... Je vais faire un appel d'offres, puis c'est des entreprises qui vont arriver pour boucher les trous, là, avec les techniques qui sont assez efficaces pour boucher les nids de poule. Puis là, ben, Patrice Roy, il la regarde, il dit « Madame Ferrada, Soraya Martinez, vous avez pas peur pour votre carrière? » Parce que lui, il trouve que c'est un moyen drastique, puis elle trouve que c'est la seule solution pour aider ces automobilistes. Là.
Mm-hmm.
Montréal est très laide actuellement. J'y étais voilà un mois et demi à peu près.
Oui, c'est un champ de bataille.
Écoute, les policiers doivent penser que tous les gens sur la route sont sous. les gens louvoient pour pas scraper le char. C'est une catastrophe. Puis elle a dit, ben moi, je suis mairesse, je vais faire ma job. Puis t'as l'autre qui dit, ben là, t'as pas peur des apparences?
Ouais.
Au-delà des apparences, tout ce qu'on veut, c'est un maire à Québec puis une mairesse à Montréal qui fassent leur job.
Oui. Non, t'as raison qu'ils doivent, elle a pris les moyens. Elle s'est pas contentée de dire, ben inquiétez-vous pas, on va faire le maximum d'efforts, on va réparer les machines, puis on va travailler là-dessus. Donc, elle prend les moyens qu'il faut, puis elle est bien consciente qu'il manque de monde sur la job, parce qu'il y a plus de nids de poules que de population à Montréal.
Oui, puis c'est pas de sa faute à elle, elle vient d'arriver.
Nids de poules pour une tête de population, là.
Puis imagine, il y a 3 millions de personnes dans la grande région de Montréal.
C'est ça. Donc, oui, ben je trouve ça intéressant. Là, je comprends mieux, Yannick, que tu dises pourquoi Patrice Roy pense que a craint pour sa job.
Moi, une politicienne qui arrive en place pour régler les problèmes puis qui se fout éperdument de ce qui va se passer dans 4 ans, là, elle gagne tout mon respect.
Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que quand elle est rendue dans ces solutions-là, ça fait clin-clin, ça fait ticlin, ça fait province ou ville qui manque de moyens.
Mais elle ramasse la merde de l'administration précédente.
Oui. Qui a mis l'argent là où c'était pas le plus prioritaire, c'est-à-dire faire des
des pistes cyclables.
Faire aussi, là, ils ont beaucoup colmaté là, des pièces de rue. Hein, on a vu beaucoup de photos circuler sur les réseaux sociaux. Donc, des portions de rue où on disait on va sécuriser les trottoirs ou on va aménager un petit...
Des bassins de rétention d'eau.
Des bassins de rétention d'eau.
Ben, on a contré les îlots de chaleur, mais le problème, c'est qu'on a enlevé des places de circulation, des places de stationnement.
Oui. Ouais, on ajoute des bandes de trottoirs avec un peu de gazon à l'intérieur.
Ouais, exactement.
Là. On continue avec l'entrevue de Patrice Roy puis la mairesse de Montréal.
Ben, je te vais dire oui puis non. Oui, parce que je le vois, là, que c'est ça qu'on le sujet de conversation. Mais non, mais parce que moi, je suis venue à Montréal pour faire ces changements-là. Mais ce que je veux dire aux citoyens, c'est que ça va prendre du temps. Moi, je peux pas arriver en 6 mois puis dire en claquant des doigts, il n'y aura plus de nid de poule. C'est pas vrai. Ça va prendre du temps. Il y a un changement structurel à faire. Il y a un changement culturel à faire. Puis ça, quand on est dans des organisations si grandes qu'un Titanic qui s'appelle Ville de Montréal, bien, ça va prendre du temps. Fait que moi, j'ai pas peur que ça me colle dans la mesure où je sais ce que je fais, puis je sais ce que je suis en train de faire. C'est la bonne chose à faire.
Comment se fait-il que la machinerie ne fonctionne pas? Ça fait quand même là, plusieurs mois que vous êtes là. Comment se fait-il qu'on en est arrivé là?
Une machine comme celle-là, quand tu les commandes, ça peut prendre 1 an ou 2 ans parce qu'ils vont les construire, ces machines. C'est pas comme aller chez le concessionnaire de machines.
Okay, je veux juste bien comprendre. Quand vous êtes arrivé, ces machines-là, on parle pas des grosses colmateuses,
non.
on parle de machines pour chauffer.
Exact.
Ce qu'ils mettent, bon, l'asphalte, il marche plus.
Non.
Quand vous êtes arrivé, ça ne marchait plus.
Une sur deux ne marchait pas, ou les pièces étaient en fin.
Mais le responsable à la ville de l'équipement, il est encore là.
C'est une question de financement. C'est une question d'investissement dans ta machinerie. C'est parce qu'on l'a capté.
Donc, ce qu'on comprend, c'est que le financement n'était pas là pour la machinerie pour faire la réfection des routes de la ville de Montréal. On parle de la petite machinerie pour colmater, là, parce qu'ils sont capables d'avoir l'asphalteuse sans aucun problème. Mais pour les nids de poule, il n'y avait plus ça. En fait, ils l'avaient. Il y en avait 3 machines de mémoire. Sur les 3 machines, elle a dit 2, là, mais je l'ai entendu au 98.5 dire qu'il y en avait 3. Sur les 3 machines, il y en avait 2 qui étaient scrap et personne ne s'en occupait.
Ah, c'est...
Là, les 3 sont scrap.
Quelle carte de visite en plus, hein, parce que non seulement là, elle est prise avec les délais que ça requiert de commander des nouvelles machines, de faire réparer les machines actuelles, mais en plus de ça, cet état pitoyable des routes. Puis je vous le dis, là, il y a beaucoup de gens dans la région de Québec qui disent qu'il y a plus de nids de poules que jamais ici à Québec. C'est vrai, ça fait dur ici, mais c'est vraiment... Vous pouvez faire x5... facilement là, en gravité quand vous allez sur l'île de Montréal. C'est vraiment catastrophique. Mais ça donne aussi une très mauvaise carte de visite pour le tourisme qu'on accueille, les gens d'affaires qu'on accueille dans notre métropole. D'avoir une ville en décrépitude comme ça, ça donne pas un bon signal économique. Tu sais, l'image de la ville est importante aussi.
Ben oui. Puis moi, ce que j'ai pas aimé dans cette entrevue-là, c'est que Patrice Roy, il essaie de prendre le singe des nids de poule.
Oui.
L'enlever des épaules de Valérie Plante puis le mettre ses épaules de Soraya Ferrada Martinez. Ouais. Mais dans le fond, là, elle a fait juste ramasser les pots cassés. Puis là, au lieu d'arriver puis de dire « Ah ouais, je pourrais peut-être essayer de faire encore de Montréal cette ville à gauche environnementaliste », elle dit « Non, regardons ça, moi je vais régler le problème des nids de poules parce que mes citoyens en ont ras-le-bol ». Je trouve que c'est une bonne action.
On a besoin de plus de politiciens comme ça dans notre société.
Ben, t'as raison, Jean-François, il y a quelque chose de particulier dans cette entrevue-là, c'est que... la mairesse de Montréal n'ose pas dire « Mais écoutez, je viens d'arriver depuis le mois de novembre dernier, puis il y a toute l'administration municipale précédente. » Elle a assez d'éthique, puis assez de hauteur, puis elle est assez solide sur ses bottines pour pas mettre ça sur la faute de Valérie Plante, alors que c'est de la faute d'administration Plante. Mais elle a assez de hauteur pour dire « Regarde, je suis là depuis novembre, je vais pas faire comme bien des partis politiques à l'Assemblée nationale qui disent que c'est la faute des libéraux qui ont été là 10 ans avant, puis la faute des autres d'avant. » Mais c'est la job du journaliste, par contre.
Ben oui, c'est la job du journaliste.
C'est la job du journaliste de dire, écoute, il reste que vous êtes là depuis seulement novembre dernier. C'est parce qu'il dit, ça fait déjà un petit bout que vous êtes là.
Ben calme-toi.
Il y a eu l'hiver, il y a eu 10 pieds de neige partout sur l'île de Montréal.
C'est son premier printemps. Si dans 4 printemps, il y a plus de nids de poules qu'il y en avait avant qu'elle soit là, ça sera un échec.
Ouais.
Mais là, c'est l'échec de Valérie Plante.
Ouais.
Soit dit ça en passant, elle fait vraiment un bon travail parce que pas plus tard que mercredi soir, au niveau des cols bleus, on a changé la présidence. Donc, c'est maintenant Jean-Pierre Lauzon. On l'a pas changé pour rien. C'est parce qu'elle tient à ligne dure avec l'école bleue. Puis là, l'école bleue, on dit « Ouais, on va changer notre président parce que ça nous tenterait d'avoir une convention collective puis arrêter de faire chier le monde dans la période des nids de poules. » Fait que, fait une bonne job, là.
Et Patrice Roy a appelé Valérie Plante pour savoir qu'est-ce qu'elle en pensait, là, des nids de poules à Montréal. Puis je pense que j'ai la traduction ici, là. Ouais, c'est ça, c'est sur ma feuille.
Marceau!
Quoi?
Ouais, mais ça la dérange pas, elle fait le tour du monde présentement.
Oui!
Puis je pense que c'est à Télé-Québec qui a fait des émissions là, sur les immersions urbaines en Afrique.
Mairesse pro-environnementale qui fait le tour du monde en avion. Tout est
tout parfait. Va bien!
Même affaire pour Justin Trudeau, hein? C'était capitaine verdoyance.
Ah oui!
Puis là, ben, il se promène partout.
Ben, il est avec Katy Perry.
Ben oui.
Ouais, puis le bateau, gros bateau à essence aussi, puis tout.
À TV5, Jeff, si tu veux suivre ça. Là,
TV5,
oui, merci. TV5, c'est international.
Oui.
Les émissions
c'est
vont être internationales.
Ouais, ben ouais. Hey, j'avais oublié la grandeur de Valérie Plante, excusez-moi.
Si vous voulez des belles carrières internationales, le truc, la recette là, de Justin Trudeau puis de Valérie Plante, elle est très simple. Faites-vous aimer. Soyez souriant, faites-vous aimer, ne dites rien pour déplaire, ne mettez rien en question du système et aspirez à faire partie de cette élite internationale. Et comment on fait partie de l'élite internationale? On ne la critique pas, on la flatte. On la flatte, on sourit aux gens et finalement, on accède à cette échelle sociale qui nous permet éventuellement d'accéder aux plus belles fonctions prestigieuses.
Attends une minute, je vais me pratiquer 2 secondes. Le pétrole, c'est mal.
Avec un beau sourire.
Ouais, je suis rendu là.
Ben oui.
Je m'en vais à TV5.
Comme de notre époque, hein, on a tous à peu près, on est tous de la même époque. Quand on voulait plaire à nos enseignants au secondaire dans notre époque, qu'est-ce qu'on disait? La couche d'ozone. On a peur des trous de la couche d'ozone.
Oui, le spray net. Mais là, c'est parce que vous crêpiez le
toupette jusqu'au plafond.
Il fallait faire attention à la couche d'ozone. Il y aurait eu des trous irrémédiables. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ces trous-là.
Attendez. Le péage sur les routes, je suis pour au Québec.
Ouais. Mais la couche d'ozone s'est réparée. Là. J'ai vu un documentaire là-dessus. Je trouvais ça franchement intéressant. Autre sujet, le DSN. Max nous apprenait ce matin que ça part à soir. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des malades et non des patients? Parce que je t'écœurais de patienter dans le système de santé. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des malades, le DSN? C'est que ça va être la fin du fax. Mm-hmm. Donc, ça va être plus rapide d'avoir ta prescription à la pharmacie quand tu vas sortir de chez le médecin. Tu vas pouvoir aussi, quand tu va rentrer à l'intérieur d'un hôpital, au lieu de montrer ta carte d'hôpital ou d'aller t'en faire une dans le nouvel hôpital où tu vas, ben tu vas avoir un bracelet qu'on va te mettre automatiquement au poignet, puis ça va aller avec un code barre. Fait que c'est valable pour toi, mais c'est valable aussi quelqu'un qui se fait prendre dans un accident de voiture, qui est sa civière, il est inconscient, ben on va y mettre le bracelet puis le code barre, ce qui fait en sorte que les gens, l'infirmière, exemple, va juste avoir à scanner le bracelet puis elle va avoir toute l'information nécessaire sur le patient qui est en face d'elle. Tout le monde qui travaille à l'intérieur de l'hôpital va être en mesure, s'il scanne ton bracelet, d'avoir accès à cette information-là. Donc, ça va aller plus vite. On va savoir très rapidement, exemple, si tu es allergique à quelque chose, bon, on va être capable de retrouver ton dossier, peu importe l'hôpital où tu vas. Et voilà. Puis on nous dit que ça va améliorer les choses là, au niveau de la vitesse. Qu'est-ce que risque Christine Fréchette avec l'implantation du DSN ce soir?
C'est que, ben là, il y a tous les projecteurs sont braqués sur les deux CIUSSS et CIUSSS qui implantent ça. Donc, dans le nord de Montréal, le CIUSSS du nord de Montréal et Mauricie, centre du Québec. Donc, le moindre dérapage, le moindre bug dans le système, il y aura des bugs. N'importe quelle grosse implantation informatique amène des bugs. Mais si l'équipe en place, l'équipe informatique en place est en mesure d'effectuer les correctifs rapidement et efficacement, bien, ça va atténuer les conséquences négatives de l'implantation de ce système informatique. Mais c'est le test de crédibilité institutionnelle. Est-ce que Santé Québec, est-ce que l'Agence Santé Québec, créée depuis maintenant on doit avoir atteint le 2 ans depuis que c'est créé, en tout cas, c'est
À peu près un an et demi, c'est décembre 2024.
Donc, test de crédibilité institutionnelle, est-ce que Santé Québec est capable d'implanter des grandes transformations numériques au sein des établissements de santé? Mais tu l'as bien dit, Yannick, c'est fondamental qu'on fasse ce virage-là. Et tous ceux dans le réseau de la santé, les médecins notamment, qui disaient « on n'est pas prêt, faut repousser », sachez que c'est tellement une grande transformation que même des plus petites transformations informatiques, des changements de système dans des départements, ça a toujours été accueilli avec des grands freins dans le réseau de la santé parce qu'on sait que ça amène toujours un lot d'instabilité, un lot de problèmes.
T'es-tu pour le go, toi, pour dire « go, on y va »? Oui.
Absolument. Oui, c'est nécessaire. Écoutez, si là, en ce
moment, j'aurais épargné certains départements. Tu sais, moi, le département d'oncologie, le cancer, là, tu viens de te faire apprendre que tu as le cancer à Sainte-Ève. La dernière des affaires que tu veux, c'est quelqu'un qui est en face de toi et dire « Écoute, t'as une chimère en toi. Pour l'instant, là, on ne sait pas trop comment ça va aller, mais il faudrait débuter tes traitements le plus rapidement possible. » Sauf que le programme DSN s'en vient, fait que tu vas être retardé de 3 semaines au minimum. Tu viens déjà d'avoir un stress. As-tu besoin de ce stress supplémentaire-là? J'aurais épargné ce département-là du cancer, moi.
Ça, c'est ce qu'on nous fait croire, qu'il va y avoir... On va retarder des traitements, mais...
C'est ce qui est écrit sur les papiers.
C'est ce qui est écrit sur les papiers, mais dans les faits, là, on implante un système informatique à grandeur pour que tout se parle. En ce moment, là, dans un hôpital ici, à Québec, à Lévis, là, en ce moment, là, t'as un système
au charbon.
Tu vas faire passer un examen en imagerie médicale. Il y a un logiciel à l'imagerie médicale. Tu vas passer des prises de sang, il y a un autre logiciel pour le laboratoire médical. Tout est séparé, puis les systèmes ne se parlent pas. On a essayé de patcher avec des plaques informatiques pour essayer que les systèmes se parlent, mais c'est très compliqué. Donc, souvent, il y a du papier encore. Qu'est-ce que ça va faire en intégrant l'ensemble de ces systèmes-là ensemble? Tu ne peux pas intégrer l'ensemble des systèmes en disant « On va intégrer l'ensemble des systèmes, mais pas ce secteur-là. Ben, » intégration complète et totale.
Tu peux l'intégrer
et
le mettre en place, mais moi, je pense que quand ça touche un cancer, tu ne peux pas te permettre de mettre encore plus de stress là-dessus. Mais oui, il faut le mettre en place, ce DSN-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais on aurait pu commencer par des départements à l'hôpital qui sont peut-être un peu moins importants que celui qui touche la vie des gens. Puis c'est écrit dans les documents. Ça va être au minimum 3 semaines. C'est le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire, Jeff, au minimum 3 semaines?
Non, mais...
C'est parce qu'ils n'ont pas mis le maximum. Là. Peux-tu me dire maximum 3 semaines? Ça va me rassurer avant que je débute mes traitements. Là.
Ah, mais moi, j'avais compris que c'était 3 semaines, là, que ça allait être déplacé 3 semaines
au
maximum. Ah, moi, j'avais compris au maximum. J'avais compris.
Peux-tu vérifier?
Je vais vérifier.
Mais il me semble que c'est écrit au minimum.
De toute façon, ça, c'est ce qui est prévu. OK, on dit c'est possible qu'il y ait des retards, mais ça ne veut pas dire qu'il va en avoir. Les médecins ont encore accès aux fax, ils ont encore accès aux dossiers physiques, aux dossiers papier. Donc, les médecins n'ont pas moins de temps pour soigner les patients, là. OK? Donc, ils vont être pris avec une plateforme informatique qui va peut-être les ralentir un peu, poser des problèmes. Mais si on a prévu du personnel administratif pour les supporter là-dedans, si le personnel informatique est vraiment sur la coche et est présent en temps réel pour répondre aux enjeux, ben oui, ça va retarder de quelques minutes peut-être le travail des gens lorsqu'ils entrent dans le système. Mais il reste que les médecins continuent de voir les patients. Les médecins continuent de remplir des dossiers, continuent de prescrire les traitements requis. Les traitements requis sont donnés aux patients, aux malades, comme tu dis. Mais je pense qu'il faut faire attention avec cette idée que quand on dit qu'il est possible qu'il y ait du retard, c'est juste qu'on veut s'assurer que ça n'éclate pas en drame s'il y a du retard. Mais ça ne veut pas dire qu'il va en avoir. Moi,
L'infirmière à l'urgence aussi me disait qu'il est possible. C'est 2 heures, 3 heures avant de voir un médecin, mais il est possible qu'il y ait du retard.
Ouais.
Le fameux 3 semaines dont tu parles, c'est quand le docteur Daniel Vien était sorti dans le Journal de Québec. Puis sa citation exacte, c'était... puis il parlait justement des délais de cancer, de chimiothérapie, tout ça. Un nouveau patient qui arrive, qui doit débuter la chimio, au lieu de la commencer 1 semaine ou 2 jours après, peut-être qu'il va la commencer 3 semaines après.
Ouais. C'est une probabilité. Ouais. Il y a une probabilité que ça soit plus long parce qu'on anticipe le pire. C'est sûr qu'on anticipe le pire.
Et ma question, est-ce que ça va tomber sur fréchette ou ça tombe pas sur fréchette? Peu importe le succès ou le fiasco.
Pour l'instant, c'est positionné pour que ça tombe sur elle parce qu'elle a donné le OK. Elle a pris sur ses épaules de dire « on lance le dossier de santé numérique ». Elle a fait une vidéo d'ailleurs sur ses réseaux sociaux pour assumer cette décision qu'elle prend. Et ça, je trouve ça très honorable de sa part. Elle n'a pas poussé en dessous de l'autobus la PDG de l'Agence Santé Québec ou sa ministre de la Santé en disant « ben c'est ces femmes-là qui prendront le blâme si jamais ça dérape ». Elle va le prendre sur ses épaules et ça, c'est fort honorable de sa part.
Avec son nouveau gouvernement?
Ouais.
Non, mais ça, c'est drôle, le nouveau gouvernement. Mais par contre, c'est tout en son honneur de le faire parce que ça aurait pu être facile pour elle de retarder ça après la campagne électorale.
Oui.
Puis là, le pari qu'elle prend, c'est de dire « je vais avoir un succès avec ça qui va me propulser et qui va vraiment me différencier de l'ancienne CAQ. »
Oui, oui, absolument.
Et mais si cela dit, elle peut se planter aussi.
Si jamais ça dérape... Si elle a prévu des équipes informatiques, puis des, probablement qu'il y a un paquet de consultants là-dedans, puis de sous-traitants, puis bon, à grands coups d'agences privées qui vont monitorer tout ça. Mais ça, on a des équipes informatiques agiles, capables d'intervenir rapidement, puis de corriger au fur et à mesure les problématiques qui vont être mises en lumière par cette implantation-là. Bien, ça se peut que ce soit quand même, si c'est pas un franc succès, ça se peut que ça se passe quand même relativement bien.
On va souhaiter pour les malades que ce soit le cas, puis que ce soit très positif. Évalué à 402 millions de dollars, le DSN, l'implantation.
Puis là, ce matin, on apprend que pour l'exploitation, c'est 100 millions par année juste pour les projets pilotes. Puis qu'on va le mettre partout au travers le Québec, ça va coûter très, très cher.
Mais vous parlez tous le même langage des chroniqueuses politiques. Vous
ah
êtes
ouais?
toutes pour qu'on starte. Vous me convainquez. Ouais. Même Marois Risky, mercredi, nous l'a dit. J'ai rencontré Santé Québec, on y va.
Ouais. Ben, puis là, moi, je suis chroniqueuse politique, mais j'ai travaillé 12 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Comme gestionnaire, je vous le dis, j'en ai vu des transformations informatiques, mais à plus petite échelle, là, par département pour essayer que des départements se parlent. Puis c'est vraiment une très, très bonne chose, qu'est-ce qui nous arrive. Hey, écoutez, vous allez vous faire traiter en ce moment à l'hôpital de Lévis pour une pierre au rein ou bien vous avez une infection urinaire qui s'aggrave, quoi que ce soit. Puis un mois plus tard, 2 mois, 6 mois plus tard, vous êtes rendu sur la Rive-Nord. Vous allez vous faire traiter sur la Rive-Nord. Les systèmes ne se parlent pas, là.
Mais non,
donc,
sais.
Sur la Rive-Nord, ici, vous allez à l'hôpital, vous allez au CHUL, puis ils ne seront pas capables de dire « Hey, voilà un mois, on t'a traité pour telle condition, c'est peut-être ça qui est en train de revenir, parce que finalement, peut-être que ça n'a pas été traité complètement, c'est en train de revenir. » Alors, on repart à zéro à chaque fois avec chaque patient. Chaque fois que vous allez à l'hôpital, on repart à zéro dès qu'on se promène d'un établissement à l'autre. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, ben, il y a un minimum de données dans notre dossier actuellement. Alors, on n'a pas toutes ce qui s'est passé, au même titre que les cliniques aussi, les GMF. Ouais. Quand on va voir notre médecin en GMF, puis ensuite on va à l'urgence, bien l'urgence, c'est pas que tu es allé voir le médecin en GMF 8 fois dans les 4 derniers mois. Donc, il n'est pas en mesure de dire, ouais, mais là, je constate que ça fait 8 fois que vous allez voir le médecin pour tel enjeu. Lui, il a pris telle note. Ça m'alerte sur tel symptôme. Je vais vous faire des tests. On repart à zéro à chaque fois. Donc, on se fie sur le narratif du malade qui arrive dans ton bureau. Le malade arrive, puis si le malade te dit, ça fait 4 fois que je vais voir le médecin dans la dernière année pour tel enjeu,
là,
s'il ne te le dit pas, bien, c'est ça.
Mais tu m'allumes des lumières parce que j'avais pété un plomb, moi, à l'hôpital de Lévis. Là. J'avais peur que le groupe d'intervention tactique du service de police de la ville de Lévis vienne me chercher parce que ça faisait pas mal une dizaine de fois qu'on rentrait à l'hôpital pour des maux de ventre de ma conjointe de l'époque. Puis elle dormait plus, là, puis elle pleurait tout le temps. Puis elle est rendue à 8e ou 10e fois, j'ai dit au docteur à l'urgence, je dis là, ça va prendre un tank pour me sortir d'ici. Là. Mm-hmm. Vous allez vérifier qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur du ventre parce que c'est pas normal. Puis finalement, il m'a regardé dans les yeux, puis j'ai dit que ça faisait 10 fois qu'on venait. Ouais. Il m'a regardé dans les yeux, puis il dit « OK, c'est beau, on va vérifier. » Puis ils l'ont rentré d'urgence, puis ils l'ont opéré d'urgence. Elle était en train de s'infecter. C'était la maladie de Crohn qui était bien entamée, qui était en train de faire sa grosse job de destruction du corps. Puis ils ont été obligés de couper tout l'intestin. Puis ils ont laissé juste un petit bout pour qu'elle puisse continuer à vivre avec ce petit bout-là. Mais sans le fait que j'aille péter une coche, puis j'avais dit, hey, ça fait 8-10 fois qu'on vient ici, là, on dort plus, ben puis ouais. À souffle le martyr. Il l'aurait laissé partir avec « Prenez des aspirines, madame, reposez-vous, ça devrait passer. »
Ça va passer.
Ce qu'il a fallu qu'il fasse, c'est d'aller voir dans le dossier physique ce qu'ils font pas toujours, et peut-être même de demander aux archives, sortez-nous les archives du dossier de la... Mais non, ils font pas, parce que c'est papier. Donc, puis... Je vais aller plus loin que ça. Mon fils s'est cassé un bras et quand on est allé à l'urgence, ils l'ont anesthésié pour faire une réduction. La réduction, ce que
du
c'est...
Du bras?
Oui, une réduction, ce que c'est que dans le fond, les os sont déplacés quand il y a fracture avec déplacement osseux. Les médecins, les urgentologues tirent sur le bras pour replacer les os. Okay?
Ça m'est arrivé.
Là, je vous le dis, vous ne voulez pas voir votre enfant subir ça parce que ça fait extrêmement mal au cœur.
Oui, moi, je l'ai vécu avec une fracture du poignet. Là. Ils ont toujours
ils tirent comme des malades. Ils font ça.
Ils cassent ça différemment.
Ils font ça sous sédation.
Ils peuvent-tu faire ça avec un pénis?
Je pense pas.
Je demande pour un ami.
Ils font ça sous sédation. Avec ils injectent du fentanyl à ton enfant, à petite dose. Souvent, c'est du fentanyl. Et là, tu vois ton enfant à la fois drogué et à la fois souffrir parce qu'il est un peu semi-conscient de ce qui se passe.
Oh, tu sens les os se déplacer.
Oui,
mais
c'est assez, là.
Okay, mais attends, mais Yannick, écoute ça. Il subit cette...
Max, c'est sur le point de vomir.
Non, mais... moi, je pensais encore à ta joke de pénis.
Non, mais écoutez, là, il subit cette torture-là sous les yeux effrayés de la maman.
Ouais, moi, j'avais dit à mon frère de venir avec moi, non pas ma mère, pour pas qu'elle vive ça.
Donc, je vois mon enfant drogué, en train de faire une espèce d'overdose et en train de souffrir parce qu'il fait à toutes les fois qu'on tire sur son bras.
Je me revois.
OK. Et ça fonctionne pas. OK. L'urgentologue réussit pas. Et le lendemain, en moins de 24 heures, il doit retourner à l'hôpital et resubir la même procédure, mais cette fois-ci avec un orthopédiste qui lui dit, je vais retenter la manœuvre, je vais regeler votre fils. Et là, moi, je dis... Il n'y a pas eu une belle expérience avec avec le fentanyl. Mon fils a senti qu'il était en train de faire une overdose. Il a dit, maman, c'était effrayant. Je ne prendrai jamais de drogue de ma vie juste à cause de cette expérience-là.
C'est une bonne leçon.
Et là, je dis à l'orthopédiste, est-ce qu'il y a moyen de regarder quelle dose vous lui avez donnée? Il allait un peu plus léger ou il donnait un autre produit que ça? Ça marche. Puis l'orthopédiste me dit, mais ça serait bien trop long d'aller voir qu'est-ce qu'il y a eu hier. Je peux pas savoir ce qu'il y a eu hier.
Fait que DSN, hein?
Donc, on induit une nouvelle sédation. On y va avec une nouvelle recette de sédation.
Au
pif un peu. Il y a des calculs qui se font sur le poids puis l'âge
de l'enfant.
Mais quand même, on se réfère pas à l'expérience de la veille. C'est ça, quand tout est papier, ça marche pas.
C'est vrai. T'as raison.
Dernier sujet, il reste...
On leur a fait mal.
Des enfants souffrir.
Retenez ce mot-là, une réduction. Si jamais vous vivez une fracture sur un de vos membres ou celui de vos enfants, puis qu'on dit qu'il va falloir faire une réduction. Oh boy!
Mais réduction, tout c'est pas ça que tu voudrais.
Non, c'est
pour l'autre organe qu'on a parlé.
C'est le contraire. Toi, tu...
C'est une question d'un ami que j'ai posé.
Hey, par texto.
Max, parle-moi de l'annonce qui a été faite par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec hier en itinérance.
Oui, 28 millions qui ont été mis pour contrer l'itinérance. Il y a trois régions qui sont visées particulièrement avec cette enveloppe-là. Outaouais, Capitale-Nationale et région de Montréal. On dit que c'est pour agir là, avec plusieurs leviers, fait accès au logement, santé mentale, les dépendances, la prévention, l'accompagnement. Je vous rappelle la citation de Christine Fléchette qui m'a fait sourire. Pour freiner l'itinérance, il faut intervenir plus tôt et autrement. Et notre nouveau gouvernement doit utiliser tous les leviers à sa disposition. Et là, ben, y a eu une petite confusion parce que là, Mme Fléchette a mentionné vouloir sortir 4000 personnes de la rue en 2026. Plus tard, ses réseaux sociaux est revenu en disant hey, « non, c'est 5000 » parce que c'était la cible qui avait été établie par le ministre Carman en avril 2025. Et là, d'ailleurs, on doit avoir les chiffres dans les prochaines semaines pour l'année 2025-2026, qui officiellement, sur papier, s'est terminée le 21 mars. Fait qu'on va voir si on atteint l'objectif des 5000 personnes sorties de la rue pour cette année-là, 25-26. Mais, tu sais, ça compte les personnes sorties de la rue, mais s'il y en a 5000 qui sont sorties, puis 6000 qui sont entrées, puis je donne des chiffres carrément au hasard, là, t'es quand même avec 1000 personnes de plus dans la rue.
Jeff, tu avais des statistiques intéressantes que tu nous as fait part ce matin.
Oui, exactement. C'est le projet Porte-Clés au niveau de l'Aube-Rivière. C'est des logements là, qui sont au-dessus de l'Aube-Rivière où on prend justement des gens qui sont en itinérance. On les amène dans ces logements supervisés-là. Et là, ils sont suivis par des psychologues, des travailleurs sociaux, des thérapeutes pour leur enlever leur dépendance. Puis, c'est à peu près une centaine de personnes qui passent par ce programme-là par année. Et le taux de succès est à 90%. Fait que c'est super bon. Il y a 9 personnes sur 10 qui quittent. Donc, s'il y en a 100 dans une année, bien, il y en a 90 qui quittent. Mais le problème, c'est quand on parle avec l'Aube-Rivière, tu sais, on est super content d'en sortir 90, mais il y en a 300, 400, 500, 600 nouvelles personnes qui demandent leur service dans l'année. Fait que moi, je trouve ça particulier qu'on se dise, youpi, on a sorti 4000, 5000 personnes de la rue. Ouais, mais s'il y en est rentré 8000 de plus.
Il manque.
T'as pas fait ta job, là.
Il manque des données dans les calculs.
Ben, c'est
ça. On a la donnée X, on n'a pas la donnée Y.
Tu sais, puis là, je parle ici pour Capitale Nationale. Si on regarde juste Porte-Clés, on va s'applaudir.
Ouais.
On va dire crime qu'on travaille pas en itinérance, mais c'est pas vrai.
T'as-tu l'impression qu'on a développé dans les derniers mois, les dernières années, une façon différente de tenter de freiner l'itinérance?
Une façon différente, je crois, de tenter de sortir les gens de l'itinérance avec plus d'accompagnement individualisé.
Ouais.
Mais il n'y a pas de façon différente de prévenir l'itinérance, selon moi.
La toxicomanie, l'alcoolisme, ça se promène beaucoup dans le quartier Saint-Roch à Québec. La maladie mentale se promène beaucoup dans le quartier Saint-Roch à Québec. C'est à se demander si on ne devrait pas obligatoirement rentrer ces gens-là pendant 30 jours, s'ils sont dangereux pour eux-mêmes, bien entendu. Là, les rentrer dedans en désintox 30 jours. Puis à partir de ce 30e jour-là, si la personne est désintoxiquée et est en mesure de réfléchir par elle-même, regarde, on a un loyer pour toi. Par contre, tu vas devoir te tenir droit. On va te faire un pistesse pendant à chaque semaine pour être sûr et certain qu'on va le savoir si tu as pris de l'alcool, on va savoir si tu as pris de la drogue. Puis on te demande pendant 6 mois de réintégrer le marché de l'emploi, tiens, ou d'aller voir un psychologue, mais tu vas avoir un toit à sa tête, puis tu vas être nourri 3 fois par jour. Ça pourrait-tu être une solution?
On pourrait le tenter. Yannick, mais 30 jours, ça passe vite mais dans la vie d'un toxicomane.
Mais ce serait tout trop
C'est quasiment 6 mois que ça prend.
Au bout de 30 jours, c'est parce que c'est des...
Il y a des thérapies qui vont jusqu'à 6 mois.
Les personnes qui sont prises avec des dépendances lourdes comme ça, souvent, ils s'auto-soignent un mal-être ou des traumatismes d'enfance qui ne peuvent pas se résoudre après 30 jours de sobriété en disant « OK, bon, c'est bon, j'ai été complètement négligée par mes parents, j'ai été abusée par un membre de la famille, abusée sexuellement, j'ai vécu de l'inceste, du viol, j'ai une condition qui n'a jamais été diagnostiquée totalement et moi, j'ai résolu mon TDAH à l'époque où on ne faisait pas de diagnostic en me gelant la face. Puis là, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je me gèle la face. Mm-hmm. C'est pas 30 jours de sobriété qui mène à l'exercice volontaire de dire « Ah oui, mais maintenant, je vais me prendre en main. »
Pour te donner des capacités de réfléchir sur ton avenir, c'est un peu ça que je voulais dire. Pour te donner les capacités de réfléchir sur ton avenir après 30 jours, tu as le choix de retourner à la rue, pas avoir de toit, pas avoir d'argent, ou d'embarquer dans le programme pour 6 mois, comme Jeff mentionne. Mm-hmm. Puis on te promet que tu vas avoir un toit sur la tête puis 3 repas par jour, mais il va falloir que tu travailles pour. Ouais. Tu sais, moi, en tant que payeur de taxes, j'ai pas de trouble à donner de l'argent à ces gens-là. Mais il faut qu'ils travaillent pour mériter cet argent-là.
Mm-hmm. Ouais, ça, c'est certainement une expérience qui pourrait être tentée, qui pourrait être intéressante. De toute façon, peu importe le taux de succès, bien, pas peu importe, mais le moindre taux de succès, même si c'est 30 % qu'on réussit à sauver, bien, c'est 30 % de plus de gens moins démunis qui retournent dans leur vieux pattern, en très mauvais français. Donc, ça vaudrait la peine de l'essayer, mais en même temps, forcer quelqu'un à être sobre pendant 30 jours.
Jacinthe Varel, merci beaucoup chaque vendredi d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Puis je te souhaite de passer un super de beau week-end.
Bonne fin de semaine.
Merci beaucoup, Max.
À la circule, un peu d'attente toujours pour la porte direction nord, sortie du pont de Québec aussi, des petits problèmes. Henri IV Sud, hauteur Charret, au Rouge et Capitale-Ouest, dans le coin d'Henri Bourassa aussi, quelques petits problèmes.
Un auditeur, Jeff, qui nous écrit, qui dit « Les objectifs gouvernementaux en itinérance devraient avoir comme principal indicateur de performance un bilan de l'itinérance qui prend en compte les personnes qui en sortent et les nouvelles personnes qui s'ajoutent. Comme vous le dites, ce serait la seule donnée valable d'amélioration, je crois. Merci pour vos échanges très pertinents. »
Ben oui, moi, c'est pour ça que je prends en compte le dénombrement qu'on fait. Puis là, il faudrait le faire à chaque année. On le fait plus sur une période de 3-4 ans. Tu sais, le dernier dénombrement était en 2022. On parlait plus de 8000 itinérants. Puis là, on a parlé en 2025 de 12 000. Fait que c'est plus 4 000 en 3 ans. Pour moi, c'est un échec.
Continuons de travailler plus fort et différent pour que ça fonctionne enfin. 8h32. Merci, on vient.
Tous les midis, à Boulevard 102.1.